Marin absent, lu par Guilhem Lanternier. Extrait de Les Présents d'Antonin Crène, édité chez Publi.net, collection Temps réel. Épisode 4. Au village, la quête de Théo n'avance pas beaucoup. Alors qu'il parcourt les mêmes paysages que son père et que ses ancêtres avant lui, ses souvenirs se mêlent à la fiction. Elles arrivent comme ça, sans crier gare. Le retour du limonadier. Sa casquette n'est plus sur sa tête, mais posée sur le comptoir. Pour le nombre de clients qui sont alignés devant lui, un seul, il peut se permettre de l'encombrer, un peu. Une autre chose est posée sur la surface du zinc poli à la force du torchon, la photocopie de Théo. Et le client, c'est Théo.
Un peu ton histoire. Elle tient pas debout, mais un peu. Ton bateau polaire au mois de juin, il n'avait rien à faire à Cherbourg. Il frayait entre l'Islande et le Groenland, loin du Cotentin. Pendant ce temps, ton aïeul faisait la navette entre l'île de Sieck et l'île de Beau, traquant la sardine dans les hauts fonds. Le marin absentait. Dès le lendemain, il n'était plus absent. Revenu de sa pêche, il faut pas s'inquiéter pour lui. Même plein comme elle est, ton histoire.
Là, dans la tête de Théo, c'est inévitable. Il entend la petite voix qui dit « La vérité, comme si tu savais ce que c'est, comme si quelqu'un au monde savait ce que c'est. » Les répliques qui lui arrivent comme ça, sans crier gare. Il répond à son ange gardien. La vérité, tu sais, moi, ce que j'en sais, comme si quelqu'un au monde savait ce que c'est.
C'est, moi, que Carwick, c'est pas loin. C'est l'endroit où il est né, c'est écrit sur ton papier. Tu vas me dire, rien n'est loin ici, dans ce village, tout rikiki. Ne fais pas l'innocent. Tu trouveras rikiki ce village. Et t'as le droit de penser. Je le pense aussi, parce que c'est vrai. Mais la vérité, hein, la vérité, comme tu dis. C'est juste à côté, Carwick. D'ailleurs, j'en viens. C'est là que je me rendais tantôt, quand tu m'as vu près de l'église. Une petite vieille qui habite là. Je vais la voir de temps en temps. Une mamie. Il y a deux maisons au bout du chemin. L'ancienne puis une autre.
Théo a attendu le retour de ce garçon pendant une petite heure à peine. Il est resté devant son papier, calé sur cette chaise qui a le même âge sans doute que la mamie dont il est question. Il a téléphoné à Édouard pour lui dire qu'il n'avait pas aimé dormir seul, et puis pour lui lire les mots tout juste découverts. Et la voix d'Édouard a répondu. Profite d'être présent au village pour poser des questions. Rencontrer tous ceux qui pourront t'aider. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Prends tout le temps qu'il te faudra. Il y a peut-être derrière une des portes de ce village une personne qui a connu tes aïeux. Qui sait? Il suffit d'y frapper, tu n'as rien à y perdre. Il est chic, Édouard. Il encourage Théo dans sa quête alors que, déjà, son amoureux doit lui manquer le soir. Il l'accompagne de loin. Il l'aide. Il prononce les quelques mots, les bribes qui suffisent à le placer sur les rails. Ensuite, la machine dans sa tête se met en route. Une légère impulsion, un coup sec de manivelle et hop, les rouages sont enclenchés. Voilà pourquoi Théo dit « J'aimerais bien connaître cette mamie. »
Elle s'appelle Maria. Comme l'homme et ton papy. Mais t'en parles pas. Va pas te faire de film. Tout le monde s'appelle plus ou moins Maria ici.
Et toi, tu t'appelles comment? Sans attendre la réponse, Théo est déjà reparti dans les rues du village. D'abord la fameuse artère sur laquelle campe le bistrot, l'église, la mairie, puis une bifurcation, plus modeste, entre deux coins de maison. Dans cette direction, c'est la campagne. Les habitations cessent de se toucher. Elles sont de plus en plus espacées, et parfois, entre elles, sont nichés d'autres édifices destinés à un usage agricole, voire artisanal. Des murs surmontés de toits, troués d'une porte, mais qui ne sont pas des maisons. Des granges, peut-être. D'autres fois, entre deux, il n'y a rien. Je veux dire, aucun ouvrage bâti. Un jardin, un pré. Le village s'effiloche. Son parcours le mène à l'orée d'un bois. Le chemin a définitivement quitté le village. Il existe des associations secrètes entre les souvenirs et les pensées conscientes. Parfois, elles sortent du bois. On peut alors leur sauter au cou avant qu'elles ne disparaissent, puis les cultiver. Théo est en train de découvrir les règles de ce jeu. Voici une occasion de s'exercer. il va provoquer une connexion entre le paysage qu'il a sous les yeux et l'un de ceux qu'il garde au fond de sa tête. Il se concentre. Depuis le chemin, une trouée dans les futaies dessine une allée, un couloir menant à une jolie demeure. Son architecture dénote par rapport aux maisons raisonnables du bourg, par sa structure autant que par ses ornements extravagants. Un genre de château de Monte-Cristo ou de manoir de cinéma. Une villa anglo-normande ou une fantaisie balnéaire, avec force tourelles et tuiles vernissées. Et c'est là qu'une transmission s'opère dans les neurones de Théo, car il a déjà éprouvé la même sensation, un jour qu'il allait visiter ce musée inconnu, au fond du parc Montreux. Cette sensation est une porte ouverte. Il s'y engouffre et va chercher le souvenir qui s'y rapporte. L'épisode est récent, quelques années, pas plus. Il avait appris qu'une exposition se tenait dans ce coin-là sur un sujet qu'il bottait, la République sociale. Ça parlait de barricades, d'espoir et de trahison. Pour la visiter, il fallait quitter Paris, puis aller tout au bout de Montreuil, de l'autre côté des murs à pêche. Dans ce quartier tellement béton et 20e siècle, le parc Montreux est une étrangeté, à cause de son lac Second Empire et de ce châtelet aristocratique au bout d'une allée. Un compromis entre la folie néo-gothique, les pointes et les flèches, et la gentilhommière de faubourg, la pierre de meulière, les briques émaillées. Le musée est dedans. Théo y passe un long temps. Lorsqu'il sortit enfin, il se balada, les yeux grands ouverts, car sa venue dans les environs avait un autre but. L'exposition était l'occasion, faisant le larron. Il voulait savoir à quoi ressemblaient ces rues, ces immeubles, ce jardin, ce décor qui était relié à sa biographie familiale, car le père de Théo a grandi ici, à Montreuil, au bord du parc Montreux. Pour s'y rendre depuis le métro, station Mairie de Montreuil, il faut suivre la rue Pierre de Montreuil jusqu'au bout. Les noms riment et se répondent. Il existe aussi, touchant à la limite du parc, une rue du docteur Charcot. Et ce docteur-là, qui se prénommait Jean-Martin, était le père de Jean-Baptiste, le commandant, celui de la mer d'Islande. La rue du père, en quelque sorte. Mais ce n'est pas dans cette rue-là qu'a vécu celui de Théo dans les années 60. Il en habitait une autre, située à toute proximité. Cette rue du docteur Charcot croise la rue Louise Michel, puis elle tombe en plein dans le parc. Le père a dû les emprunter souvent pour aller jouer, pour sauter à cloche-pied autour du lac, pour grimper aux arbres, pour faire les choses que Théo ferait ensuite avec sa mère, au même âge, dans un autre parc, de l'autre côté de Paris. Quittant le musée pour découvrir ces lieux aux noms légendaires, Théo avait sorti le plan de sa poche. Il parcourut à pied ces quelques rues, impasse et cité. Des immeubles en barre, des pavillons. Il éprouva en trois dimensions le territoire qu'il avait déjà exploré à maintes reprises sur le papier, à plat. Et je parle alors de la platitude du papier, le plan étalé par terre dans la chambre, aussi bien que du corps de Théo, couché à plat ventre sur le lit, laissant pendre sa tête au dehors pour surplomber Paris et sa petite couronne, délimitée aux traits noirs et coloriés de teintes pâles. Théo aime bien les plans. Il a toujours deux plans de Paris sur lui, une habitude. Le premier, il est dans sa tête, la configuration des lieux tels qu'ils sont arpentés par ses propres jambes. Leur dessin se trace dans la mémoire de Théo à mesure qu'il les parcourt, complétant son puzzle intime. Le second plan, il est dans son sac, un petit volume compact à la couverture rouge toilée, dont le titre est marqué en creux. Guide pratique de Paris par arrondissement. Et de sa banlieue desservie par le métro. C'est ce qui plaît à Théo, car les quartiers y sont représentés à la main par un cartographe pointilleux, fixant sa représentation d'une ville qui, à peine le dessin terminé, a déjà changé. Théo s'y promène comme il voyagerait dans le temps. C'est Édouard qui le lui a offert en lui disant « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier ». Une sorte de blague, car Théo ne se perd jamais dans une ville. Dans un village, en revanche, il ne sait pas encore si son sens de l'orientation fonctionne aussi bien. Il traverse le Guilec. À cet endroit, le débit, la largeur, toute l'apparence du fleuve diffère de celle qu'il acquiert plus bas, après qu'il a dégringolé au fond des gorges. Théo ne reconnaît pas l'eau qu'il a vue courir sur les cailloux depuis le viaduc. Il ne sait pas qu'il s'agit du même torrent placide. Et si ce n'est lui, c'est donc son frère. Alors Théo croit franchir le lit de l'Orne, ce fleuve qui dessine le contour droit du cœur sur la carte topographique. Il ne sait pas qu'il n'y a pas de forêt sur les rives de l'Orne, et que celle où il se trouve est donc couchée dans la vallée du Guilec. Théo se dit, un bois pareil aux portes du village, c'est un peu comme le bois de Vincennes, parce que le bois de Vincennes est toujours le but de ses promenades vers l'est à Paris. Il avance pourtant dans la direction opposée. Espère-t-il, comme Christophe Colomb, gagner Kerlouic par la route occidentale en faisant le tour de la Terre? Ce monde-là est peut-être rond aussi. Mais non, sa méprise est plus simple. Il est seulement distrait, occupé par son nouveau jeu. Il était à Montreuil, mémoire floue mais solidement arrimée aux portes de Paris. Maintenant, il pousse un peu plus loin, à la recherche d'autres images de son père. Et l'histoire qui surgit cette fois n'est pas un souvenir. Elle a été assemblée par Théo à partir de plusieurs récits mélangés, auxquels il a ajouté quelques notes personnelles. Tout n'est donc pas vrai dedans, Théo le sait. Il fait exprès de composer son histoire ainsi. Et l'exercice demande beaucoup de concentration. Voici par quoi son esprit est occupé alors. Par un portrait de son père en jeune homme. En 1980, il a 20 ans. Il se lance dans une sorte de voyage initiatique. C'est l'hiver, le village est triste. La ligne ferrée qui le relie à Saint-Paul-de-Léon n'existe déjà plus, mais cela n'a pas d'importance pour lui car il n'est pas venu de Paris par le train. Il se déplace en utilisant le moins d'argent possible. Il a tendu le pouce à la porte d'Orléans, une première voiture l'a laissé à Rennes, la suivante à Morlaix, et la troisième l'a déposé au village. Le conducteur de cette dernière, à qui le garçon aux cheveux longs demandait conseil, lui a répondu qu'il n'y avait pas d'hôtel ici, que le plus proche se situait à la ville. « Peut-être trouverai-je un café, au moins, pour boire ou manger quelque chose. Je me débrouillerai ensuite s'il faut dormir ailleurs. Le bistrot, où il existe. Tu tromperas dessus, plein milieu du bourg. » Celui qui tient le débit de boisson est un type à peine plus âgé que lui. Chaleureux à un point, c'est inespéré, dans cette saison grisâtre et humide. Un cadeau. Ses larges épaules sont rassurantes. Le gars est costaud mais tout fin. Ses gestes décrivent des courbes très sûres, jamais inutiles. Il sait ce qu'il fait. Il est souriant. C'est cela qu'il remarque d'abord le père de Théo, qui n'est encore le père de personne. Le long jeune homme qui sert les cafés et la limonade, dès qu'il sourit, une grande fossette se creuse de chaque côté de sa bouche. Une fossette, que dis-je ? Un sillon, une faille, une ligne immense qui barre son visage, en même temps que ses dents l'illuminent.
Tu trouveras pas d'hôtel dans ce spot-là, on te l'a sûrement dit. Tu peux rester ici si tu veux pour une nuit ou plus. Il y a une chambre qui sert pas. T'as pas l'air bien riche. Le prends pas mal, hein, de ma part surtout. T'es venu en stop et puis tes cheveux, ton blouson. On voit que tu gardes tes sous pour ce qui compte, ou alors que t'en as pas du tout. Et tu repartiras quand t'auras trouvé ce que tu cherchais.
Je sais pas ce que je cherche en vrai. Je vais me poser un peu. Il est resté jusqu'au printemps, pour réfléchir. Peut-être pour fuir Paris. Pour oublier des bêtises qu'il avait faites, pour mettre de la distance entre ses 20 premières années et les 20 suivantes. Il ne peut pas savoir à ce moment de son histoire qu'il a déjà fait plus de la moitié du voyage. Du parc Montreux jusqu'au café du village, quelle route a-t-il suivi exactement? Il est impossible de la retracer dans son intégralité. Quand bien même le jeune homme aurait vieilli, serait encore vivant et pourrait raconter sa vie à Théo. Combien de temps lui serait-il nécessaire pour tout expliquer en détail? 1000 heures de conversation suffiraient-elles à rendre compte de plusieurs décennies? Il pourrait tenter de brosser les années à grands traits, afin de donner une impression générale, une esquisse. Mais pour considérer chaque détail, chaque élément minuscule qui constitue véritablement une vie, chaque pièce du puzzle qui, s'il n'en manque qu'une seule, abîme irrémédiablement le tableau final en y laissant un trou, pour rendre compte des émotions, des doutes, des sensations qui ont traversé l'enfant, l'homme, dans chacun de ces instants et qui, seul, permettraient de comprendre à qui on a affaire, pour décrire tout cela, il faudrait une éternité. 1000 heures de conversation ne suffiraient pas à partager la complexité des millions de connexions qui s'effectuent dans la tête et entre la tête et le corps, et dans le corps tout entier, en une minute unique. Alors, de toute façon, l'exercice serait vain. Théo n'aurait jamais trouvé toutes les pièces de ce puzzle chimérique, quand bien même sa vie et celle de son père auraient coïncidé sur une plus longue durée. Il aurait continué de se poser des questions comme tout le monde s'en pose et n'aurait jamais obtenu les réponses. Mais enfin, il aurait pu interroger son père de temps en temps. Il lui aurait demandé « Avant de t'installer sur le boulevard Voltaire à Paris, où as-tu vécu ?» C'était forcément dans le même quartier, déjà. Entre la Bastille, la Nation et la Porte de Montreuil. À la rigueur, à la Croix de Chavaux. Il n'a pas pu s'en éloigner trop. C'était son coin, son territoire. Peut-être a-t-il vécu dans la rue Voltaire à Montreuil. Ou alors dans la rue de Montreuil à Paris. Ou encore dans la rue de Paris à Montreuil. Il aimait la photographie. Il avait apporté son appareil avec lui en Bretagne. Il avait probablement fait quelques images de l'océan, ainsi que des vues du village. Une série de portraits peut-être. Les gens rencontrés jour après jour dans ce patelin. On peut supposer que se trouvaient, par coïncidence, parmi ces personnes inconnues, des cousins plus ou moins éloignés. Une vieille tante prénommée Maria, un oncle pêcheur, des branches oubliées de la famille. Les idées de Théo sont un peu bancales. Elles seraient plus solides s'il savait ce que son père était venu chercher ici, ou bien ce qu'il a trouvé ici sans le chercher. Car il serait facile pour Théo alors de deviner ce qui a impressionné la pellicule. Le photographe a certainement voulu fixer cette chose dès qu'il l'a trouvée. Puis, ces images ont sans doute été perdues. Et la seule qui reste, rangée dans la penderie de la mer, c'est le portrait que connaît Théo, sur la plage de Carbrat devant l'ancien hôtel des bains. Comment peut-il savoir avec certitude que le garçon aux cheveux longs sur la photo, son père, est un jeune Parisien tout juste débarqué au village plutôt qu'un jeune Breton grandi ici, puis venu à Paris? Et si le type du café, au lieu d'appuyer seulement sur le déclencheur de l'appareil, avait échangé sa place avec lui? Et si, au contraire, le photographe n'avait pas cessé d'être le photographe et que le modèle c'était l'autre? Si ce garçon était un grand type, aux larges épaules, avec un sourire à tomber par terre? Un garçon qui ne savait pas nager et qui serait devenu marin tout de même? Non, Théo n'a pas envie de ces hypothèses qui sont de fausses pistes. Il veut bien inventer une vérité, mais pas n'importe laquelle. Là, ça deviendrait bête. Il fabriquera une autre histoire qui lui plaira mieux. Mais il n'oublie pas qu'il a une enquête sérieuse à mener et que, dans ce but, il doit se rendre à Kerlouik. Il y découvrira peut-être la vérité vraie. Il constatera que la vie n'est pas si compliquée. Elle est même parfois étrangement simple. Cela, il le sait déjà. Au printemps 1980, quelques semaines après son retour à Paris, le jeune homme rencontrait une jeune femme près de la gare désaffectée de la Bastille, dans un appartement qui n'était celui de personne, à l'occasion d'une fête où les gens étaient nombreux et portaient tous les cheveux longs. Les garçons et les filles étaient assis par terre sur des tapis artisanaux ou bien collés contre les murs tendus d'étoffes exotiques. Les coloris étaient vifs et les motifs complexes. Les yeux étaient sollicités de tous côtés, non seulement par les couleurs clignotantes des tentures, mais aussi par les visages et les corps, parce que les gens étaient beaux. La musique et la fumée participaient à créer des coïncidences entre les autres sens, car il fallait se parler fort, et parce que l'exiguïté des deux ou trois pièces de l'appartement rendait inévitables les contacts physiques. Le jeune homme et la jeune femme se plurent. Ils décidèrent de se revoir. C'est ainsi, en tout cas, que la mère de Théo lui a raconté sa rencontre avec le père. C'était « Marin absent », lu par Guilhem Lanternier. Extrait de « Les présents » d'Antonin Crène, édité chez Publinet, collection Temps réel. « Marin absent » est disponible en podcast sur le site de Radio Campus, à la page du Marin absent. Production La Compagnie Ensemble, sous la direction artistique de Coralie Tommy. Réalisation Élodie Hervier. Enregistrement Radio Campus Paris. Suite du feuilleton, demain, même lieu, même heure. La Compagnie Ensemble sera présente au Festival d'Avignon du 2 au 7 juillet à 18h40 dans la cour du Théâtre du Roi René. Elle présentera la pièce de conte Cosmogonie du Monde, tout public, à partir de 6 ans.